Voilà ce beau chant qui exprime bien ce que nous voulons pour le Seigneur. Voilà, je vous invite à venir avec moi dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. Premier livre des Rois, chapitre 18. Connaissons bien ce texte, long, on va le fractionner. Donc, 1 roi 18, on lira à partir du verset 20e. Un roi 18-20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Nous allons au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils firent ainsi une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Voilà donc une histoire bien connue d'Élie, cette histoire que nous connaissons bien, mais une histoire intéressante parce qu'Élie nous transmet des leçons, des principes spirituels qui sont restés, qui demeurent, qui se sont passés là et plus tard, mais ces leçons spirituelles, elles demeurent. Et nous avons, même dans le Nouveau Testament, il est question d'Élie dans l'épître de Jacques. Voilà, donc cette histoire, c'est un témoignage, et nous bénissons Dieu pour les hommes et pour les femmes que Dieu a choisis, et qui sont là pour nous dire, voilà, quand nous invoquons le nom de l'Éternel, il répond, il agit. Heureusement que nous avons des exemples dans la parole de Dieu qui nous encouragent et qui nous aident en disant, comme dit la parole, Élie était de la même nature que nous. Donc, c'est le même Dieu qu'il a invoqué, le Dieu que nous allons prier tout à l'heure, c'est le même Dieu, et c'est le même Dieu qui répond aussi à la prière, qui répond par sa puissance. Il y avait un relâchement en Israël, ça a été comme ça tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, Et tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des sommets et des abîmes. Il y a eu des moments de spirituels favorables et des déclins. Ça a été comme ça tout le long, comme dans le livre des Juges, mais tout au long de l'histoire. Et là, nous traversons une période de relâchement spirituel. Le peuple s'appelait toujours le peuple de Dieu, mais leur cœur s'était éloigné de Dieu. Et en fait, il n'y avait plus de vrai culte. Ils croyaient en Dieu, mais ce peuple s'était éloigné. Et vous savez, quand on s'éloigne, la place dans le cœur, elle ne reste pas vide. Il y a toujours quelque chose qui s'installe ou quelqu'un. Et là, l'éloignement du peuple de Dieu a suscité également de nombreux faux prophètes. Et ces faux prophètes ont été fortifiés parce que le peuple, il y avait peu de spiritualité, peu de barrières, peu de combats, et les faux prophètes foisonnaient parce que le peuple de Dieu était faible. Et bien sûr, on peut comparer à la période actuelle, où l'Église a besoin du secours du Saint-Esprit, l'Église a besoin d'être visitée à nouveau, les chrétiens ont besoin de se tenir à genoux et d'invoquer le nom du Seigneur, parce que là aussi, avec une apostasie générale, les faux prophètes et les fausses doctrines foisonnent. Dieu va susciter Élie et l'envoya vers Akab. Élie est un personnage curieux. Au chapitre 17, le chapitre qui précède, Élie arrive, on ne sait pas d'où il vient, mais il arrive de la part de l'Éternel et il arrive avec un message. Et on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais Élie arrive avec un message, un jugement. Un jugement de la part de l'Éternel, parce qu'il y a eu l'idolâtrie, il y a eu l'apostasie, il y a eu les faux prophètes, et Dieu va dire à Élie, voilà, tu leur diras que pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie sur la terre. C'était un jugement, pas de pluie sur la terre, à cause, si Dieu a jugé ce pays, c'est à cause des croyants. C'est pas à cause des païens, c'est à cause des croyants qui s'étaient éloignés de Dieu, et Dieu va juger le pays. Élie va avec ce message, pas facile, mais il y va et il apporte ce message à Akab. Un message, le ciel sera fermé pendant 3 ans et demi. Et dans cette période, Dieu va donc appeler, susciter Élie, va le former. Nous avons eu l'occasion de parler d'Élie au torrent de Kérit avec les corbeaux. Les enfants, ils s'en souviennent, parce qu'il y en a un qui m'a dit « Oui, tu as parlé d'un corbeau qui a donné à manger à Élie. » Donc Dieu l'a façonné, l'a formé pendant ce temps, et Dieu va l'envoyer dans cette période trouble. Dieu trouve toujours des hommes, des femmes pieux, pieuses, qu'il appelle et qu'il envoie. Puisse-t-il nous trouver dans cette période, avec nos limites, nos faiblesses, mais que Dieu nous remplisse de son amour, de sa grâce, de sa puissance, de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de période qui déstabilise Dieu. Même dans les périodes les plus sombres, Dieu s'est toujours manifesté, pardon, et s'est toujours manifesté avec des hommes et des femmes. Dieu s'est manifesté. Dans cette période, donc, il trouve Élie et il va utiliser son serviteur. Et Dieu va le former, le façonner, l'envoyer pour qu'il fasse la différence. Vous voyez, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que quand il y a un amalgame, quand il y a confusion, quand on ne sait plus trop où est la vérité, la lumière, on ne sait plus trop, c'est diffus, c'est confus. Il n'y a rien de pire. Et Élie va être envoyé pour faire la différence, une ligne de démarcation. D'ailleurs, il dit au peuple, choisissez qui vous allez servir. On ne peut pas servir les deux. Il dit, mais choisissez, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Choisissez qui vous voulez servir. Moi, je crois que Dieu a toujours fait la différence. La lumière et les ténèbres, il n'y a rien à voir. La vérité, l'erreur, il y a les faux prophètes, les vrais prophètes. Il n'y a jamais eu. Dieu a toujours voulu qu'il y ait une différence, que l'on puisse... Parce que si le peuple de Dieu ne fait pas la différence, imaginez ceux du dehors. Imaginez ceux du dehors dire, mais où est la vérité finalement? Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation, il faut qu'il y ait, que ce soit clair, qu'il y ait un message clair. Élie a été envoyé pour faire la différence donc entre le vrai Dieu et les faux dieux. entre le vrai prophète, et les faux prophètes. Et Élie va relever ce défi avec courage, avec foi, avec force, avec zèle. Il va relever le défi. Je crois que pour être prophète, il fallait vraiment être courageux, mais je dirais aussi que pour être chrétien, un vrai chrétien, il faut être courageux. C'est clair. Élie donc va relever ce défi, le défi pour que la vérité éclate au milieu de la fausseté, que la lumière éclate au milieu des ténèbres, afin que le peuple sache où est le vrai Dieu et qui est le vrai Dieu. Alors deux choses qu'Élie a faites. D'abord, il va bâtir un autel, il va prier d'abord, bien sûr, mais il va bâtir un autel, il placera le taureau dessus, et ensuite, il pria l'Éternel. Que d'enseignement dans cette vie d'Élie, que d'enseignements, des enseignements profonds pour nous, pour notre vie de tous les jours, pour la vie d'Église. Merci.
Merci frère.
Voilà, ça va mieux. Voilà, que d'enseignements donc pour notre vie de tous les jours. Et je crois que nous sommes appelés les uns et les autres à ce que notre vie soit aussi un enseignement pour les autres, que nos vies soient aussi un repère pour les autres, que nos vies soient aussi un témoignage pour les autres, pour qu'ils reconnaissent et sachent où est le vrai Dieu, que notre vie soit aussi une lettre lue et connue de tous les hommes, pour parler comme dans les épîtres de Paul, que notre vie soit cette lumière, que notre vie soit ce sel dont Jésus a parlé. C'est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Nous avons la responsabilité de connaître Dieu. Nous avons la responsabilité d'aimer Dieu. Nous avons la responsabilité de témoigner de Dieu. Nous avons aussi la responsabilité de refléter Christ dans nos vies. C'est une responsabilité. Et il faut toujours nous placer par rapport à ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ne savent pas, ceux qui cherchent, ceux qui tâtonnent. Nous avons cette responsabilité par nos vies, nos propres vies, je ne parle pas seulement des paroles, mais par notre propre vie, de refléter. Élie a reflété. Élie a été un témoignage pour nous. Et la Bible nous dit, et je le répète, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme qui est entré dans l'histoire du peuple de Dieu, comme notre vie aussi doit écrire une histoire à l'époque où nous sommes. Il a été aussi une source d'édification. Il faut que nos vies, et ça c'est Dieu qui le veut, hein, il faut que nos vies inspirent ceux qui sont autour de nous. Il faut que notre vie, elle puisse donner envie à d'autres. Tracer le sillon, inscrire ses repères pour d'autres, des points à imiter. Comme Paul le dira, il ne dit pas seulement imiter Christ, mais il y a une responsabilité pour chacun d'entre nous. Paul dit « soyez mes imitateurs ». Alors, on le dira peut-être pas comme ça, « imitez-moi ». Mais en fait, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ah, ça responsabilise. Il dit, moi, je suis un imitateur de Christ, c'est ma responsabilité, je marche à la suite du Seigneur, je veux marcher dans ses voies, je veux que son esprit me remplisse. Voilà, moi, je suis un imitateur de Christ, mais je peux vous dire que vous pouvez regarder à moi. Ça semble présomptueux un peu, d'orgueil, hein, de dire, voilà, regardez à moi. Mais en fait, c'est la responsabilité que nous avons, même si nous ne le disons pas, ceux qui sont dehors ne voient pas Christ, mais ils nous voient nous. Et ils peuvent voir ce que la foi peut représenter, ce qu'une vie chrétienne peut représenter. Ils peuvent voir ce que l'amour de Dieu peut manifester. Et ça, c'est dans nos vies qu'ils le voient, puisque nous ne pouvons pas voir Christ, mais nous pouvons voir la vie des croyants. Ces hommes et ces femmes de la parole ont laissé des valeurs spirituelles, des témoignages, des points de repère, des sources d'inspiration et de bénédiction. Que laisserons-nous à la génération future, aux enfants, comme témoignage, comme héritage spirituel? C'est quand même important. Vous avez le psaume 78 où il est parlé de cela, des parents qui laisseront à leurs enfants, ils leur diront à la génération future pour qu'ils n'oublient pas de placer leur confiance en l'Éternel. Voilà, j'ai feuilleté un petit peu quelques livres sur des témoignages d'hommes et de femmes au cours de l'histoire. Alors, je ne sais pas le nom. C'est quoi ce nom de... Vainqueur. Voilà, j'ai feuilleté un peu les trois tomes, là. Il y a des témoignages que nous connaissons très bien, d'hommes de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des illustres inconnus, enfin, de moi, il y en a certains, parce qu'il y a des centaines de témoignages, d'illustres inconnus, mais quand on lit quand même leur histoire, ils ont marqué leur temps, ils ont apporté quelque chose de la part de Dieu au moment où ils ont vécu. Des noms que vous ne connaissez pas certainement, comme j'en connais pas, mais merci Seigneur pour ce qu'ils ont pu tracer, pour ce qu'ils ont pu donner de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, en lisant leurs témoignages, eh bien, ça nous édifie, ça nous encourage de dire ils ont vécu dans des difficultés. Certains, je lis, je me dis, mais comment ils ont fait? Eh bien, ils ont quand même servi le Seigneur dans les difficultés terribles pour certains où ils ont vécu. Ils ont servi le Seigneur. Ben, c'est encourageant. Je me dis, c'est édifiant. Et d'ailleurs, vous pouvez vous les procurer. C'est vraiment très bien. Le but de notre vie, eh bien, c'est d'être devant Dieu d'abord, le vécu, d'être pour Dieu, servir Dieu en servant les autres. Vous savez, le présent a besoin du passé. Nous ne pouvons pas dire, voilà, nous existons aujourd'hui et puis on fait fi de toute l'histoire de l'Église, de tous les témoignages de la Bible. Non, non, non. Le présent a besoin du passé. Nous avons besoin de voir ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont laissés comme témoignage, comme foi, comme dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, nous avons le témoignage de foi de ces hommes, de ces femmes, et ça nous encourage, parce que ça rend possible ce qui est peut-être théologique, on se dit, mais ça le rend accessible, parce que eux l'ont vécu. Alors ça nous dit, nous aussi, nous pouvons vivre ces choses. Et le futur a besoin du présent et du passé. L'histoire nous enseigne et nous avons besoin d'être enseignés par la parole et par l'histoire de l'Église, même tous ces témoignages. Alors, la relation que nous avons avec Dieu laissera-t-elle des leçons et des bénédictions pour les autres? C'est la question que nous nous posons, comme Élie a laissé, et dans le Nouveau Testament, c'est retranscrit dans le Nouveau Testament, donc il a laissé un témoignage. Que le Seigneur nous aide à être riches pour lui, à être riches pour Dieu, à être riches de Dieu, à être riches des choses de Dieu, pour que nous puissions transmettre quelque chose, consciemment ou même inconsciemment, que nous puissions transmettre quelque chose à ceux qui sont autour de nous. Bien sûr, le modèle parfait, c'est Christ. Et nous le savons et nous avons là une vie plus que riche pour Dieu. Jésus a vécu pour son Père, dans la volonté de son Père, et il a été riche en ayant cette communion avec Dieu. Eh bien, il a pu transmettre des bénédictions à ceux qui étaient autour. Et on est frappé quand on voit les gens qui accourent vers Jésus. Ils accourent vers lui, pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à leur donner de la part de Dieu. Des enseignements, bien sûr, à leur donner, mais aussi des bénédictions, des guérisons, on voit que Jésus transmettait de la part du Père des bénédictions et des richesses à ceux qui venaient auprès de lui. Tous ceux qui venaient avec foi auprès de lui ont été bénis. C'est une vie riche, c'est notre modèle par excellence. Jésus avait une communion avec son Père parfaite, était rempli jusqu'à toute la plénitude, et nous voyons ce que ça peut donner, une vie remplie jusqu'à toute la plénitude. Ça bénit les autres, ça les enrichit, ça les inspire, ça les attire, et ils reçoivent de lui. Voilà, ça c'est notre vie qui est là aussi, qui s'inscrit. C'est ce que Dieu veut. C'est pas avec nos talents à nous, notre capacité. Non, 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 pas du tout. Mais c'est ce que Dieu peut faire au travers de nos vies. Le plus faible au milieu de nous, le plus petit, si on pourrait parler ainsi, eh bien Dieu veut le bénir, le remplir, afin qu'il puisse inspirer ceux qui sont autour, même dans un contexte très difficile comme celui d'Élie, eh bien il a pu être ce modèle, celui qui a transmis quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que nos vies sont remplies de ces richesses qui attirent les autres pour qu'ils reçoivent, pour qu'ils puissent recevoir ces richesses? L'Église est-elle riche des richesses de Dieu qui attirent les âmes pour qu'elles les reçoivent? Paul disait dans Éphésiens 3, 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Des richesses. Notre Dieu est riche. Notre Dieu est grand. Et notre Dieu veut nous communiquer ses richesses et cette puissance et cet amour. Il veut nous le communiquer afin que nous puissions le communiquer à d'autres. C'est ainsi. C'est pas pour nous seulement, mais c'est pour le retransmettre. Jésus n'est pas venu pour lui-même, mais il est venu pour servir les autres. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de la vie d'Élie, Élie était conscient que sa force était en l'Éternel. Ça, c'est une leçon, et je dirais une leçon même d'humilité, surtout une leçon d'humilité. Élie était conscient qu'il n'avait point de force en lui-même, de force propre, mais sa force, c'était l'Éternel. C'est une grande leçon pour nous, ce soir, d'humilité. Il sait que sans Dieu, il n'est rien, il ne peut rien et il ne sait rien. Ça, si nous apprenons cela, par expérience bien sûr, on peut dire oui par l'intelligence, mais par expérience, si nous pouvons apprendre sans Dieu, je ne suis rien, je ne sais rien et je ne peux rien. Et que notre force tout entière soit puisée en l'Éternel. 1 Roi 18:42, nous voyons la position d'Élie sur le mont Carmel, il est au sommet, au verset 42, il dit « Acab monta pour manger et pour boire ». Élie, pourquoi il est monté lui? Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Vous voyez la différence? Un, il monte pour manger, pour boire. Lui, il monte plus haut et il monte pour intercéder, pour prier l'Éternel. Et la tête entre ses genoux, c'est cette position d'humilité. Élie était humble parce qu'il savait que lui n'était rien, mais il savait que Dieu était tout. Et donc, il y avait cette position d'humilité. Nous retrouvons dans le Nouveau Testament ces choses, l'apôtre Paul dira, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Mais pour reconnaître qu'on est faible, il nous faut vraiment, vraiment le Saint-Esprit qui agisse en nous, parce qu'on croit toujours être quelque chose, moi et vous, hein, on croit toujours pouvoir se débrouiller, on sait les choses, on essaie de se débattre, on essaie de trouver des solutions, des choses, alors que des fois on va perdre du temps, on va perdre de l'énergie, on va perdre du courage, alors qu'il n'y a que Dieu qui peut agir dans certaines situations. C'est pas facile d'être humble, hein. Je crois que c'est une des leçons les plus difficiles, mais que Dieu nous aide. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de quoi que ce soit, au contraire, notre capacité vient de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pu l'utiliser, et l'utiliser d'une manière puissante, parce qu'il a reconnu eh bien, qu'il ne pouvait rien, mais que sa capacité venait de Dieu. Il y a des montagnes devant nous, comme il y avait des montagnes devant Élie. Quelle montagne était devant Élie? C'était des montagnes infranchissables. Il y avait bien sûr les faux prophètes, il y avait les fausses doctrines, l'idolâtrie, l'apostasie, mais il y avait aussi les menaces, menaces d'Acab, menaces de Jézabel. Il y avait tout cela devant lui, c'était comme des montagnes. Et nous aussi, nous pouvons nous trouver devant des montagnes, des difficultés, des choses qui sont devant nous infranchissables. Puissions-nous mettre la tête entre les genoux et invoquer le nom de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut agir dans bien des situations. Puissions-nous lui faire confiance. Élie a surmonté tout cela, il est allé plus haut, il est monté plus haut, au sommet du Carmel, dans la présence même de Dieu, et Dieu a agi. Il avait besoin de savoir que sa force était en l'Éternel. Est-ce que nous réalisons que Jésus est notre source, notre force, tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a pris et l'a mis en Christ. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tout ce dont nous avons besoin est en Christ. Et pas en nous, mais en Christ. Donc l'Éternel est sa force, Élie. Là encore, une autre leçon, on passe rapidement, bien sûr, sur tous ces... Et Élie rétablit l'autel, le lieu du sacrifice. Parce que quand le peuple s'est éloigné de Dieu, l'autel a disparu. L'autel a été renversé. Et lorsque les enfants d'Israël arrivent, avaient abandonné Dieu, il n'y avait plus de culte réel. Les choses de Dieu étaient négligées. Et quand l'apostasie prend place, il n'y a plus de vrai culte. Chacun cherche son intérêt, ses avantages, son bien-être, etc., etc. Il n'y a plus de racines, de convictions, de profondeur, et on devient fragile et on peut être séduit de Dieu précieusement. Gardons toujours les valeurs de Dieu, gardons toujours les éléments que Dieu a mis à notre disposition, et nous allons voir juste quelques-uns, mais il nous faut les garder parce qu'on n'est pas à l'abri d'être séduit. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas à l'abri d'être séduit? Il y a une séduction telle que Jésus même dira que ça pourrait toucher même les élus s'il était possible. Vous voyez, c'est donc une puissance, on n'est pas à l'abri, on ne peut pas dire « moi je ne serai jamais séduit, j'ai la sainte doctrine, je garde la sainte doctrine ». Il faut non seulement garder la sainte doctrine, mais garder les éléments que Dieu nous a donnés, la communion avec lui, le Saint-Esprit, etc., pour que nous soyons gardés, parce que beaucoup avant nous ont été séduits et sont tombés, même des serviteurs de Dieu. Donc on n'est jamais à l'abri, ne soyons jamais présomptueux de dire « moi non, jamais ». Pierre l'a dit avec Jésus, mais donc que l'humilité nous permette toujours de garder les choses de Dieu. Il n'y avait plus de sacrifice. Mais lorsqu'Élie est arrivé, la première chose qu'il fait, face à toutes ces menaces, à toutes ces choses, il rétablit, il rebâtit l'autel. Devant l'adversité, Élie s'est souvenu que l'autel était fondamental, primordial, l'autel. Et bien sûr, pour nous, c'est la croix. L'autel, c'est la croix qui est fondamentale. Tout découle de là. Le salut, la grâce, la puissance, la sainteté, l'amour, tout découle de la croix. L'autel, c'est là que tout commence. C'est comme si devant l'adversité, les difficultés que nous traversons, toutes les hautes montagnes, nous devons nous souvenir que notre victoire est en Christ. Et notre victoire est en Christ et à la croix du calvaire. C'est là, à la croix, que Christ a remporté la victoire sur le péché, sur la maladie, sur les fausses doctrines, sur le démon, sur le diable. C'est là qu'il a remporté la victoire. Le sacrifice, la notion de sacrifice est importante. Dieu a donné Jésus en sacrifice pour nous. Mais la notion de sacrifice est importante. Dans toute l'histoire de l'Église, il y a le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice coûte. Ce que nous faisons pour Dieu coûte. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. On parle aujourd'hui plus de joie, d'enthousiasme, d'épanouissement. Ok, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Pour Dieu, il y a un prix à payer, parce qu'il y a un combat quand nous servons Dieu. On ne le fait pas à la légère, on ne fait pas ce qui nous plaît, on ne fait pas parce que c'est facile, on ne fait pas parce que... Non, Il y a un prix à payer parce que la chair, elle ne veut pas servir Dieu. Et si on sert Dieu selon sa volonté par l'esprit, il y a un combat. C'est automatique. Parce que tous ceux qui nous ont précédés ont combattu pour servir Dieu. Parce que le diable ne veut pas que notre service soit efficace. Donc quand on sert Dieu, je le fais de tout mon cœur, mais c'est un sacrifice. Parce que la chair ne veut pas servir en esprit. Ce n'est pas le superflu que je donne, ce n'est pas du temps en trop, mais c'est le meilleur. Et c'est quand même un sacrifice. Le diable veut que nous servions l'Éternel, mais d'une manière légère, mais Dieu veut d'une manière profonde. Le sacrifice, c'est la substance, c'est ce que nous devons apporter. Dieu a offert son propre fils, ça donne du sens au sacrifice. Et l'apôtre Paul dira dans Romains au chapitre 12, il parlera d'un sacrifice, et il dira, par les compassions de Dieu, offrez vos corps, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera un culte raisonnable, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel d'offrir nos vies sur l'autel, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est quelque chose de logique, de normal, et c'est ce que Dieu veut, afin qu'il puisse se servir de nous. Donc dans Romains 12, 1 et 2, combien ont laissé se détériorer l'autel du sacrifice. L'autel du sacrifice. C'est l'absence de repentance réelle. Le sommeil spirituel gagne les cœurs. Et quand il manque la repentance, le cœur devient insensible aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit, plus de discernement, on devient insensible. Et c'est là où on ne sait plus faire la différence entre ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous et parfois même ce qui vient de l'ennemi. La parole de Dieu ne pénètre plus dans le cœur, elle s'arrête à l'intelligence et elle s'échappe. La véritable repentance amène notre cœur à être labouré, notre cœur à être ramolli. La repentance amène notre cœur, comme cette terre, à être remuée, et la semence venant dedans, elle va porter du fruit. L'absence de repentance réelle, d'un esprit de repentance, ce n'est pas juste une repentance ponctuelle d'une foi, mais c'est l'esprit de repentance amène notre cœur à recevoir cette bonne semence. Et le cœur dur nous parle du chemin qui reçoit la semence et le diable l'enlève de suite. Que la croix s'imprègne dans notre vie. Il y a la croix, bien sûr, on peut en parler, on peut prêcher la croix, mais il y a ensuite l'esprit de la croix. Et ça, c'est vivre la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix, ce n'est pas seulement l'esprit de repentance, mais il y a bien des aspects dans notre vie par rapport à la croix, mais la repentance, c'est le premier signe que la croix, c'est pas un slogan, c'est pas une parole, c'est pas une prédication juste, mais quand la croix, elle est vécue, il y a la repentance automatiquement. Et cette repentance, elle est salutaire. Cette repentance, elle est une bénédiction, et pour nos vies personnelles, et pour l'Église. Parce que Dieu est en train de préparer les cœurs pour y jeter sa semence et même pour le réveil. La première des choses dans le réveil, c'est la repentance. Si on n'est pas conscient qu'on est loin de Dieu, on n'est pas conscient qu'il y a de la superficialité, si on n'est pas conscient de tout ça, on ne va pas prier pour le réveil. Hein. Mais si l'esprit de la croix peut toucher notre cœur, à ce moment-là, il va y avoir la réalité des choses. Il y a ce que nous on voit humainement, mais il y a ce que l'Esprit voit. Et que Dieu soit béni pour ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, que le maximum, et pourquoi pas toute l'Église, ait les yeux bien ouvert spirituellement afin qu'il puisse y avoir des actes en conséquence. On a besoin de se repentir. Mais si je dis à quelqu'un, il faut vous repentir, ce n'est pas moi qui dois, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire à la repentance. C'est la parole de Dieu. Si je dis, voilà, il faut on ne commande pas comme ça de se repentir, voilà, aujourd'hui, maintenant, il faut que tu te repentes. Mais de quoi? Si on n'est même pas conscient. Mais si l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs, on va, les genoux vont tomber, et puis on va se repentir devant le Seigneur, chez nous, et pourquoi pas collectivement. Que Dieu fasse qu'il puisse atteindre nos cœurs. L'esprit de repentance, l'esprit du sacrifice. Ce n'est pas dans l'air du temps, on ne veut plus souffrir aujourd'hui. Je ne parle pas de souffrance physique, hein, mais on ne veut plus lutter, de contrariété, on ne veut plus combattre, on veut plus, on veut être tranquille. Vous savez ce que je peux vous dire, si on veut être tranquille, on ne peut pas être chrétien. Mais je le dis parce que la Bible le dit, hein. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Donc tous les enseignements le montrent. Si on veut être cool, tranquille, pas de contrariété, faire ce qui nous plaît. Mais on ne peut même pas vivre une vie chrétienne digne de ce nom. Là, les enseignements, c'est voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas dans l'air du temps. On voit l'esprit de ce monde, c'est être cool, zen. Voilà, c'est tranquille. Est-ce que vous avez vu un chrétien tranquille, un soldat tranquille, avec des ennemis? Oh, moi je veux être sur le hamac. Et nous avons des ennemis. Paul nous parle du combat et de l'intensité du combat dans Éphésiens 6. Simplement, vous lisez Éphésiens 6, vous dites, ah bon, c'est bon, je croyais que je pouvais être tranquille, pas de contrariété, pas l'ennemi me laisserait tranquille. Non, pas du tout. Pas du tout. Voyez, l'esprit du sacrifice, c'est n'existe quasiment plus. Quasiment plus. Sans l'esprit de sacrifice, il ne peut y avoir de service efficace pour le Seigneur. Voilà, on fait si on a le temps, si on peut, si on est bien disposé, si on est tranquille, si on n'a pas de... Mais ça, c'est pas dans le Nouveau Testament, ça. Voyez, on donne si on a en plus, on donnera un peu, si on a du temps, si on a de l'argent en plus. Voyez, Jésus, il s'est trouvé devant... Voyez comment il se trouve toujours au bon endroit. Hein. Il se trouve devant le tronc. Et il y a une pauvre veuve, nous dit la Bible, qui vient et qui va mettre 2 pièces. Et puis il y avait les autres, les riches, qui mettaient beaucoup, Et Jésus va donner un enseignement à ses disciples. Il va dire, mais regardez, cette pauvre veuve, elle a donné de son nécessaire. Et eux, ils ont donné de leur superflu. Mais ce n'est pas du tout la même valeur, là. Ils ont fait d'abord... ils ont pris de l'argent pour ceux dont ils avaient besoin, ceux dont ils avaient envie, ce qu'ils faisaient, voilà. Et puis après... Ben, ce qui restait, il restait peut-être pas mal parce qu'ils étaient riches, ben, ils le mettaient pour l'offrande. Cette pauvre veuve, c'est tout ce qu'elle avait. C'est sa vie, finalement, elle le met dans ce tronc. Et Jésus va souligner cela. Et nous devons, nous, servir le Seigneur, pas avec des restes, pas avec si on est disposé, si on ne l'est pas. La vie chrétienne, on sert Dieu, point. Ça sera difficile, mais Jésus nous l'a dit. Mais par contre, ce qui est important, c'est que Jésus soit avec nous. Ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous. Et si Dieu est avec nous, il nous gardera dans tous les combats, il sera avec nous, c'est lui qui combattra pour nous. Mais l'Église, c'est cela. C'est pas si j'ai le temps, si j'ai de l'argent, si j'ai envie, si je suis bien disposé, si j'ai une bonne nuit. Non, non, certains de nos frères et sœurs ont été... sont morts en martyrs pour servir Dieu. Quand on lit justement dans ces livres-là, vainqueurs, ces 3 livres, on s'aperçoit que certains ont été brûlés sur les bûchers et qu'ils n'ont pas abjuré. Certains ont servi Dieu jusqu'au dernier moment. Ils ont été persécutés, emprisonnés. Quand on voit John Bunyan, il a été en prison pendant, je crois, 12 ou 15 ans de sa vie par fraction. Mais est-ce que la prison a eu raison de lui? Non, il a écrit ses meilleurs livres en prison, dont nous en avons quelques-uns encore. Mais ces hommes-là, ils auraient pu dire, bon, moi, tranquille, hein, si on me persécute, ben, je dis que je ne connais pas Jésus. Mais non, ils ont servi le Seigneur et ils ont été persécutés. Donc, nous n'offrons pas un sacrifice qui ne nous coûte rien, mais nous offrons notre vie. Vous savez, quand Dieu nous a donné Christ, qu'est-ce qu'on a eu à faire, nous ? On n'a pas eu à faire grand-chose, hein, qu'à l'accepter. Non ? On ne s'est pas roulé par terre, on n'a pas fait des efforts, on n'a pas fait un chemin de croix pour accepter. Non, on a accepté Jésus. Et il est devenu notre sauveur. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit maintenant, tu me donnes ta vie pour que Jésus soit ton Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Sauveur, on n'a rien fait. Mais Seigneur, on le décide. On décide de le servir, de lui donner notre vie, de marcher avec lui, d'obéir. Ouais, mais c'est dur. Non, Dieu ne te demande pas, c'est dur. Il demande d'obéir. Et puis, il nous aide. Donc Jésus, Seigneur. Parce que Jésus, Sauveur, simplement. Je ne sais pas si c'est possible, hein, mais le Nouveau Testament nous parle de Seigneur. Et enfin, la dernière leçon que nous pouvons tirer avec Élie, bon, il y a bien d'autres leçons dans ce texte, mais son témoignage de prière. Et d'ailleurs, c'est celui qui va être repris dans le Nouveau Testament. Élie était un homme de prière. Vous avez ça dans l'épître de Jacques. Il pria instamment pour qu'il ne pleuve pas, et le ciel s'est fermé, il pria à nouveau, et le ciel s'est ouvert. Donc Élie a une prière persévérante, agissante, c'est ce que le Nouveau Testament va souligner de la vie d'Élie. Un homme de prière, mais c'était aussi un homme d'action. Mais un homme de prière. Et nous voyons que son témoignage, donc les leçons qu'il nous donne, sa confiance en l'Éternel est ma force, l'autel qu'il va rebâtir, et maintenant il prie. Alors c'est sûr que quand nos vies sont livrées sur l'autel, il n'y a plus de mobile impur dans la prière. Il n'y a plus de motifs égoïstes, de choses pour soi. Quand on a livré nos vies sur l'autel, nos sujets de prière, ils vont être dictés par l'Esprit de Dieu. On ne va plus prier d'une manière... mais on va prier selon la volonté de Dieu. Élie va prier, donc du verset 41-46, mais on ne va pas s'y attarder, j'ai eu déjà l'occasion de prêcher. Mais trois choses se sont passées quand Élie a prié. La première des manifestations, c'est le feu qui tombe du ciel. Et ça nous parle de la puissance de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il est aussi question de puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». C'est la puissance d'en haut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous en avons besoin, c'est indispensable, on ne peut pas vivre sans. En tant que chrétien et en tant qu'Église, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et le feu qui descend du ciel, c'est le symbole de cette puissance de l'Esprit dont l'Église a cruellement besoin. Mais je dis cruellement besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous savez, on peut faire les choses automatiquement, on est rodé, on est huilé, les choses peuvent se faire, un culte peut se dérouler, une réunion de prière peut se dérouler. Ça peut se faire d'une manière humaine, hein. Mais on a besoin de la puissance du Saint-Esprit qui va faire toute la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence avec ces faux prophètes ? C'est le feu qui descend du ciel. C'est la réponse de Dieu. Oui, l'Éternel est le vrai Dieu. Ils ont compris parce que la puissance de Dieu est descendue du ciel. Et on a besoin de cette puissance de l'Esprit pour faire la différence. Sinon, quelle différence on va faire ? Par nous-mêmes, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit comme différence. Humainement, y en a, ils sont de meilleure constitution que d'autres, humainement. Mais voilà, ça s'arrête là. Certains ont des qualités humaines, d'autres... aussi, un peu moins, un peu plus, bon. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui va faire la différence. Les premiers chrétiens, c'était des hommes, des femmes, comme nous, dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui a fait la différence ? La puissance du Saint-Esprit. Quand ils sont allés, il y a eu la démonstration de puissance, il y a eu les guérisons, il y a eu les convictions, il y a eu une foi audacieuse. On les menaçait et ils disaient, Seigneur, voilà, on t'envoie leurs menaces, et donne à tes serviteurs, non pas de se taire, mais d'annoncer encore plus fort la prédication de la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait toute la différence. Et voyez, on en a tellement, tellement besoin, mais il faut qu'on soit convaincu qu'on en ait besoin, qu'on ne peut pas continuer à vivre des années comme cela. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est la première manifestation dans la prière d'Élie, le feu est descendu du ciel. La deuxième manifestation, c'est la victoire sur les faux prophètes. Et nous devons combattre ces fausses doctrines, qui sont des fois subtiles. Vous allez me dire, mais nous on n'a pas vu de faux prophètes passer au milieu de nous, on n'a pas vu de ceci, pas vu de fausses doctrines. Détrompez-vous. Des fois c'est très subtil. Très subtil. Bon, ce n'est pas le propos ce soir, mais c'est très subtil des fausses doctrines. Donc, il nous faut combattre. Mais on n'a pas d'armes contre l'erreur. Nous, on a des armes pour la vérité. Nous, on combat pour la vérité. Donc, il nous faut annoncer la vérité et les ténèbres se dissipent, les fausses doctrines. Si on enseigne la vérité, si vous témoignez les uns et les autres de la vérité, les fausses doctrines, elles vont partir d'elle-même. Ben, il nous faut proclamer. Il ne faut pas se taire. Si vous entendez les chrétiens, un chrétien qui passe par exemple, il vous dit « Oui, moi j'ai reçu dans tel endroit ça, le Seigneur m'a dit, hop, stop. » Voilà. Nous, la parole de Dieu, elle dit ça. Mais il faut la connaître, déjà. Et puis il faut dire « Voilà ce que la Bible dit. » Et avec la vérité, vous fermez la bouche des faux prophètes. La vérité. Élie a proclamé que l'Éternel était Dieu. Et il a dit, on va prier, et le feu est celui qui répondra par le feu, eh bien c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Et nous avons vu le vrai Dieu. Donc la victoire sur les faux prophètes, ça a été la deuxième manifestation. Et la troisième, et je termine par là, et nous prierons, la troisième manifestation, donc dans la prière d'Élie, c'est la pluie qui est venue. Après 3 ans et demi, après le sacrifice, après le feu du ciel, il y a la pluie qui vient. C'est le symbole de la bénédiction. C'est le symbole de la visitation. Et Dieu veut cela. Il veut visiter son peuple. Il veut que la présence de Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Il nous faut soupirer, il nous faut réclamer. Moi, je prie, je dis, Seigneur, que tu sois réellement au milieu de nous. Que ça soit tangible, qu'on n'ait pas besoin de faire quoi que ce soit pour démontrer que tu es là, mais que tu y sois, et que tu y sois et que ça se voit, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des convictions, des délivrances. Oui, Dieu veut le faire, des baptêmes du Saint-Esprit, sans provoquer quoi que ce soit, mais qu'il y ait vraiment la vie de Dieu qui se manifeste. Élie a rétabli l'autel, et pour nous, il nous faut rétablir la croix. La croix, il ne faut pas que ce soit un slogan. Il faut pas, parce que des fois, ça peut être comme un tampon, vous voyez. On prêche la croix, on parle de la croix. Mais c'est quoi? C'est pas juste d'en parler, même de prêcher. C'est pas juste une terminologie. La croix, il faut que ce soit vécu, qui est l'esprit de la croix. Et l'esprit de la croix, ben, c'est tout un programme, mais vous l'avez dans le Nouveau Testament. Que Dieu nous aide. Élie a été un homme qui a inspiré, Élie a été un témoin, il a écrit ces pages d'histoire qui nous servent encore aujourd'hui, que nous puissions, nous, les uns et les autres, écrire aussi une histoire avec Dieu. Écrire une histoire, qu'on laisse quelque chose à ceux qui sont autour de nous et à ceux qui viendront après nous, comme ceux qui ont écrit, qui ont leur biographie dans ce livre, dans ces témoignages, eh bien, qu'il y ait quelque chose du ciel qui vienne, et que ça inspire d'autres, que nous puissions aussi placer toute notre confiance en l'Éternel, en sa force. Nous ne pouvons rien, nous avons perdu beaucoup de temps parce que nous pensions arriver à quelque chose avec... Non, mais comptons sur la grâce de Dieu, sur la force de Dieu. Troisièmement, rétablissons l'autel, que la croix soit au centre de nos vies, au centre de l'Église. Et puis, une vie de prière indispensable, une vie de prière personnelle. Si on ne prie pas, on sera charnel, c'est sûr et certain. Pas de vie de prière intense et intime, on sera charnel. On combattra des choses de la chair, on se débattra avec des choses de la chair, avec nos pensées, avec nos... C'est sûr et c'est certain, mais Dieu nous appelle. Et là où on ne peut pas, eh bien, disons comme David, « Hisse-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Seigneur, je ne peux pas avoir une vie de prière comme ça du jour au lendemain, si je prie 3 minutes pour les besoins quotidiens. Amène-moi, Seigneur, dans ce secret, comme Élie, sur le mont Carmel. Et le mont Carmel, c'est fertilité, c'est bénédiction sur le mont Carmel. Seigneur, emmène-moi sur cet endroit où je prie seul, je passe du temps. Seigneur, donne-moi de le faire, afin que je puisse changer de l'intérieur et pouvoir communiquer quelque chose à ceux qui m'entourent. On communiquera que ce qu'on a reçu de Dieu. On ne peut pas communiquer d'autre chose, ça ne s'invente pas. On ne donnera que ce qu'on a reçu du ciel. Et où est-ce qu'on le reçoit? Sur le mont Carmel, dans la prière, dans l'intimité. Que Dieu nous aide avec cette vie qui inspire la vie d'Élie. Oh, il y a tellement de choses à dire, mais que Dieu nous aide. Seigneur, nous te bénissons pour ces témoins, pour ces hommes, ces femmes de Dieu qui ont vécu avec courage, avec foi, avec zèle. Seigneur, qui se sont manifestés, Seigneur, au cours de l'histoire de l'Église, Seigneur, nos frères et sœurs qui ont écrit une page d'histoire. Seigneur, nous te bénissons de ce que leur vie nous inspire encore aujourd'hui, de ce que leur vie nous encourage, de ce que leur vie, eh bien, nous montre quelques repères, Seigneur, et nous dire « c'est possible ». Seigneur, merci. Que nous ne soyons pas de ceux qui reçoivent seulement des autres, mais que nous puissions apporter. Seigneur, que nos vies inspirent aussi. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous. Et que, Seigneur, tu sois cette force, cette source. Seigneur, nous voulons dépendre de toi, Seigneur, afin que dans les situations difficiles, dans les montagnes, on ne s'épuise pas, on ne se décourage pas, mais que l'on te fasse confiance et que ces montagnes, tu les aplanisses, Seigneur. Merci, étends ta main, que la croix soit toujours au centre de nos vies et au centre de l'Église, au centre du culte. Seigneur, que l'on puisse toujours nous souvenir que tout vient de toi. Seigneur, et aussi aide-nous dans notre vie de prière intime, personnelle. Seigneur, à la développer, à développer une communion avec toi, à nous tenir parfois silencieux devant toi, à placer du temps devant toi, Seigneur, afin que nous recevions de l'Esprit des choses, Seigneur, qui nous manquent et dont nous avons besoin. Bénis ton peuple, bénis l'Église, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.